Nous sommes en studio avec trois femmes du collectif Verba. Elles viennent d'organiser un festival pour mettre en lumière les nouvelles écritures ukrainiennes et russes en exil et anti-guerre. Est-ce que vous pouvez penser dans votre pays à un théâtre que vous aimez où vous pourriez vous télétransporter là? Est-ce que vous pourriez nous donner l'image de cet endroit-là? Ekaterina Olenikova.
Ça fait très longtemps que je ne suis pas rentrée en Russie, mon pays natal. Je ne peux pas vous donner une image d'un théâtre en particulier, ce serait plutôt une image générique des théâtres que j'aime. À Saint-Pétersbourg, c'est la ville où j'ai vécu juste avant de venir en France. Et c'est un petit théâtre où les gens sont assis sur les chaises, mais également un peu partout dans la salle. C'est un théâtre où il y a les personnes de toute génération, où il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, mais également beaucoup de personnes âgées. Et pendant les pauses, avant la représentation ou après la représentation, les gens se parlent, les gens boivent et ils échangent ce qu'ils ont vu. Et ils partent dans toutes les directions dans cet échange. Et les choses qui ont été sur la scène s'entremêlent avec les expériences, avec tout ce qui s'est passé juste avant le spectacle, tout ce qui s'est passé après. Donc c'est la vie, le théâtre qui se mêlent ensemble.
Maria Tchouprinskaya, est-ce que vous pensez à un théâtre en particulier où vous aimeriez vous télétransporter là tout de suite?
Pour moi, c'est une question difficile parce que le théâtre vers lequel je voudrais revenir, vous dites dans mon pays, et pour moi c'est quelque chose, enfin c'est une formule difficile. Qu'est-ce que ça veut dire mon pays? Moi je viens de Moscou. Tout ce qui déroule comme actualité, comme des événements, ne peuvent pas m'identifier que c'est mon pays. Je peux dire que je suis apatride. Je n'ai pas de pays pour rentrer. Pour l'instant, il n'y a pas de théâtre vers lequel je veux rentrer. Je suis quelqu'un de déraciné. On m'a coupé de mes racines. Ce sont des questions, des questionnements difficiles pour moi. Si on peut purement, on plonge dans l'imaginaire, c'est de l'imaginaire pur qui reste. Tout a été brûlé par l'actualité, par tout ce qui se passe. Cette machine de guerre qui dévore les enfants, les femmes, les hommes. Immense monstre de guerre, les femmes qui ne vont pas porter leur enfant, les hommes qui sont tués, les chiens, les chats, les grands-mères, les champs sont tués, les vaches sont tuées. Je n'ai plus de paix.
Elena Petrovskaya, est-ce que vous pensez à un théâtre là tout de suite où vous aimeriez être?
Vous savez,
j'ai rencontré au festival un adolescent de 14 ans. On peut dire un bonhomme de 14 ans, Sacha, qui était au théâtre de Mariupol dans l'abri anti-bombe. Il était avec sa maman et il a vécu ce moment de bombe. Avant cette guerre, Sacha avait que sa maman. Et quand l'armée russe a frappé avec cette bombe sur le théâtre de Mariupol, sa maman, le seul être cher au monde qu'il avait, tout ce qui restait, c'était juste un petit bout de doigt. Parce qu'il a identifié sa maman avec ce fragment de doigt, avec la manicure qui restait sur l'ongle. Et depuis, il est orphelin dans cette vie. Il n'a plus d'être cher. Il n'a eu que 12 ans au moment de cette bombe, de cette explosion. En 2 ans seulement, il lui a fallu pour devenir, on peut dire, un homme, presque un homme mature. Il a eu cette maturité brusque.
Et si les forces suprêmes, si le Dieu puisse m'entendre maintenant, et si je puisse vraiment me télétransporter dans un lieu, j'aurais souhaité être un court moment dans cet abri antibombe au sous-sol du théâtre de Mariupol juste avant. Je n'ai jamais été à Mariupol et je n'ai jamais été au théâtre de Mariupol. Mais je voudrais regarder dans les yeux de tous ces gens qui ont été là-bas et je voudrais leur dire, chers amis, chères femmes, hommes, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. La mère de Sacha, Elena, elle avait le même nom que moi. Elena, je leur ai dit, Elena, ton petit bonhomme, ton fils, ce sera un homme merveilleux. Il survivra. Il pourra témoigner. Il aura une très très belle épouse, des beaux enfants. Tu seras toujours là pour veiller sur eux. N'aie pas peur. Et à tous ceux qui ont été là, qui ont péri, les survivants ne seront pas nombreux après cette explosion. Mais votre mémoire, l'amour et le respect envers vous, avec cette humanité que vous avez portée, sera préservée. Nous allons traverser des années et le monde entier connaîtra votre histoire et votre mémoire et que le monde entier puisse savoir sur le crime fasciste qui a été commis par cet État agresseur, État terroriste, et pour qu'on puisse savoir quels crimes sont possibles si on n'arrête pas à temps cet agresseur, cet terroriste. Votre sacrifice, il a servi à cette mémoire. Ma pièce de théâtre qui porte le nom « Les poissons ne pleurent pas ». C'est une métaphore, parce que l'Ukraine, elle est dans cette posture. L'Ukraine est un pays très fort et très courageux, et tous les Ukrainiens sont en ce moment-là dans cette posture. Les Ukrainiens ne pleurent pas, les Ukrainiens rient.
Il est 19h sur France Culture et c'est le début d'une nouvelle vie. Une vie pas tout à fait choisie, il faut recommencer à zéro. Des artistes ukrainiens, russes en exil, ont réinventé leur vie loin de leur pays et continuent à écrire, créer, mettre en scène. C'était il y a quelques jours la première édition à Montreuil du festival Le Doc en scène, La Voix humaine, Ukraine. Un festival avec au cœur de la programmation le théâtre documentaire qui raconte la guerre et son cruel quotidien. Un festival pluridisciplinaire dédié à la création artistique ukrainienne et aux artistes anti-guerre russes. Deux jours de rencontres, projections, lectures, organisées par le collectif Verba, né en 2023. La semaine dernière dans Tous en scène, nous étions au Théâtre du Soleil avec Ariane Mouchkine, qui avait donné un stage à Kiev en Ukraine. Dans l'émission, elle était en discussion avec deux jeunes femmes qui pensent le théâtre en temps de guerre, en Ukraine et en Israël. Ce soir, on s'intéresse à la vie des artistes en exil, à ceux qui naissent sur scène ici depuis leur départ. Elena Petrovskaya a écrit la pièce « Les poissons ne pleurent pas ». Une femme en a assez d'être humaine et préfère parler à un poisson pour oublier. Elle préférerait d'ailleurs avoir comme lui 5 secondes de mémoire et c'est tout. Elle préférerait rester à Mariupol et ne pas risquer la vie de ses enfants. « J'étais un être humain dans ma vie antérieure », dit-elle. La vie antérieure n'existe plus, mais une nouvelle terre se déploie. La langue et la pensée ne sont pas effacées. De nouvelles pièces naissent ici, et la scène se fait l'écho des vies du présent qui aimeraient pouvoir recoller l'avant et l'après. Nous sommes avec trois femmes de ce collectif artistique Verba, l'avocate Ekaterina Olenikova, l'actrice, réalisatrice, productrice russe Maria Tchuprinskaya, en exil en France depuis le printemps 2022, et l'autrice, réalisatrice ukrainienne Elena Petrovskaya. Elles parleront français ce soir grâce à Natalka Boyko-Jakoura. Vous écoutez Tous en scène sur France Culture. On commence en écoutant la voix de l'artiste Antigona, ukrainienne exilée en France, au micro de Laure Adler alors qu'elle arrivait à la Cité des Arts à Paris en 2022.
La première explosion, c'était le plus terrible. Ça retentit au loin. Mais je pense que chaque partie de mon corps se remplissait de ce son lointain de bombardement. J'avais le sentiment que quelque chose silencieusement explose à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est un sentiment de sidération complet. On est paralysé par cette dislocation interne et on ne sent pas ni douleur ni rien, mais on est paralysé. Et en fait, je pense que tout ce qu'on pouvait de l'or lire seulement dans la littérature ou dans les œuvres. Et cette explosion qui a retenti au loin, mais je pense que c'était la pire parce que c'était le début de la fin de notre vie. Et moi, je suis très sensible au son et les sons définissent ma vision du monde. Et là, j'ai senti que mon monde a éclaté en morceaux. Ce n'est pas la fin de la fin qu'on comprend, mais c'est quelque chose, le début de la fin qui annonçait le début de l'horreur.
Ce festival qui vient d'avoir lieu, dont on va parler, le festival d'Okansen, présentait des artistes qui sont en exil. On entendait Antigona qui parlait du début de sa nouvelle vie. Est-ce que chacune, vous pouvez peut-être dire en quelques mots, c'était quand le début de cette nouvelle vie en exil et les sentiments qui sont attachés ? Elena Petrovskaya ?
Ça
faisait très longtemps que je ne vivais pas. Plus en Ukraine pendant 20 ans, à partir de l'an 2000, j'ai vécu à Moscou. Je suis réalisatrice de cinéma, dramaturge, un peu compositeur, et j'ai travaillé à Moscou. Je pensais que c'est une des meilleures villes au monde jusqu'à un certain moment. Quand en 2014, la guerre a commencé, mes amis de Facebook m'ont invité de venir en Ukraine pour tourner un documentaire. Et je suis venue et j'ai filmé le long de la ligne de contact, de la ligne de front. Et comme je suis aussi, j'avais quelques rudiments aussi de caméraman, j'ai pris la caméra et j'ai moi-même tourné le film. Et entre 2015 et 2016, j'ai parcouru tout l'est de l'Ukraine le long de la ligne de contact. J'ai enregistré beaucoup d'interviews et des moments d'hostilité. Et j'ai produit trois documentaires. Et quand je suis revenue à Moscou, j'ai compris que ce n'était pas possible pour moi de rester dans cette ville. Et en 2017, c'était le point de non-retour. Je suis partie pour Kiev. Ensuite, de là, j'ai commencé à sillonner le monde. Et le 24 février, cette date, c'est quelque chose, malheureusement, que j'avais pressenti à l'intérieur parce que j'ai vu cette guerre qui a commencé depuis 8 ans avant. Ça montait en moi, j'étais témoin direct de ce qui se passait en Ukraine. La guerre m'a pénétré mon corps, mon âme, et je pense que pour moi, la guerre, elle a commencé en 2014.
Et
si je devais me remémorer d'un moment précis, c'est justement quand je suis entrée avec ma caméra dans la ville de Счастье, qu'on doit traduire bonheur. Счастье, ça veut dire bonheur.
Je rentre
dans la ville de bonheur. Je vois les rues complètement tordues par les mines et les maisons détruites. Et toute cette image de bonheur, de la ville, de cité de bonheur qui est ravagée par un paysage de guerre. Et les personnes qui étaient dans le même véhicule que moi, pendant quand je filmais, ils crient « Léna, couche-toi ». Je me suis penchée sur le sol du véhicule parce qu'il y avait les explosions. Et mais moi, j'ai gardé quand même ma caméra un peu surélevée pour continuer à tourner par la vitre. Du véhicule. C'est impossible d'imaginer au XXIe siècle, au centre de l'Europe, un pays civilisé, la Russie, puisse faire cette agression à grande échelle contre son pays, contre voisin. C'est quelque chose qui dépassait mon entendement.
Maria Tchouprinskaya, vous travaillez comme actrice, réalisatrice, productrice en Russie jusqu'au printemps 2022. Est-ce que vous auriez imaginé, avant ce moment-là, devoir partir ?
Avec mon mari, j'ai eu de longues discussions concernant la possibilité de partir des années avant. Le problème, c'est que la maman de mon mari a été alitée et ne pouvait pas partir. Moi-même, j'avais tout un fardeau des activités parce que, en tant que volontaire, je m'occupais dans un dispensaire psycho-neurologique des gens, et donc je sentais cette responsabilité. Et nous, on avait un projet avec mon mari, c'était avant la pandémie, de partir vers Odessa. Ensuite, tout a été mis en attente, et après, il y avait ce 24 février, le mois de février, mois féroce. Je suis rentrée à cette époque de Chisinau, où je faisais un tournage. Je suis rentrée à Moscou, et pendant deux semaines, je rôdais dans le centre de Moscou. J'essayais de surélever des petites pancartes « Non à la guerre, ne touchez pas à l'Ukraine ». Mais je me sentais seule. Et dès que mon mari a dû retourner à Moscou, et on est parti. C'était une période de grand désenchantement. Le 24 février 2022, je pensais que ce jour dans chaque village, dans chaque ville, tout le monde devait en sursaut sortir dans les rues et dire non à la guerre, non, ça va s'arrêter très vite. J'étais persuadée que quelqu'un tuera Poutine, que les gens diront non. Moi, j'ai regardé beaucoup de films sur les super-héros. Où sont ces James Bond? Où est le super-héros qui devait sortir et rétablir cette lutte contre le mal? Où est cet héros qui va arrêter la marche de mal? Où est l'épée qui va trancher cette tête? Où sont toutes ces icônes? Où est Saint-Georges? Et tous ceux qui terrassent les dragons. J'ai beaucoup filmé pendant ces jours dans le centre de Moscou, et mon mari, quand il est arrivé, il m'a dit il faut partir très très vite. Et j'ai dit oui, j'ai dit formidable. J'étais une jeune maman, mon deuxième enfant avait juste un an. Moi, j'ai dit toi, prends les enfants et pars part, part pour les mettre à l'abri, mais moi, je dois rester ici pour prendre un cocktail Molotov et jeter sur le Kremlin. Et, par exemple, ma fille, elle, ma grande, l'adolescente, me demandait pourquoi, maman, tu nous as mis au monde quand on voit cette menace de la guerre atomique, on a cette menace de guerre sur l'humanité. Même dans les pires scénarios, on n'a pas pu imaginer le monde tel qu'on le vit aujourd'hui.
C'était
très difficile pour moi et mon mari m'a aidé pour revenir à la réalité. On a pris l'avion tous les deux avec nos enfants et on est parti en famille.
Et
quand on me pose cette question, est-ce qu'un jour vous imaginez votre retour si le régime change, avec beaucoup de si, moi je réponds toujours avec petite poésie, un petit poème enfantin, une comptine enfantine, s'il y avait la pluie, les champignons sortiraient. Donc il n'y a pas de si. Moi je dois voir des choses en face, des choses réelles, et tous ces gens qui sont dans ce pays aujourd'hui, ils se taisent. Et pour je suis très quelqu'un de très sensible, et comment je pourrais regarder en face de ces gens qui ont été témoins de tout ça et qui n'ont rien fait. Je suis dans un, je pense que à l'intérieur de moi c'est un champ de bataille. Je me bats contre moi-même. Je suis quelqu'un qui prend très à cœur tous ces morts, chaque enfant tué par cette guerre, tout ce lot de victimes de cette guerre, je le vis très très mal. Je ne sais pas comment me projeter vers quel avenir, qu'est-ce que je peux dire en tant qu'être humain pour être audible, pour être compréhensible. Je suis sûre que tant qu'il y a cette guerre, je ne suis pas un être normal. Je suis irradié continuellement par cette radioactivité produite par cette guerre. Je suis sur le pic de la douleur. Je ne peux rien dire, juste. Je ne peux pas témoigner, je ne peux que souffrir. Quand je pense continuellement, ma pensée est tout le temps présente à tous mes amis qui restent en Ukraine, qui demeurent là-bas, qui vivent cette horreur. Et j'ai un trauma de vicaire. Je ne peux pas me soigner moi-même parce que je ne vis pas ça, mais en même temps, je ne peux pas vivre avec ça.
En tout cas, vous avez créé ici avec d'autres femmes, dont Ekaterina Oleinikova, un collectif artistique Verba qui est à l'origine donc de ce festival de théâtre documentaire, enfin pluridisciplinaire, mais il y avait beaucoup de pièces de théâtre documentaire à l'intérieur qui témoignaient justement d'expériences, de vécu pendant la guerre récente, ces dernières années, dans le quotidien des gens. Ekaterina, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'envie, la nécessité de ce collectif pour vous, et puis de ce festival où peuvent se rassembler ces artistes qui sont en exil et qui travaillent et qui écrivent?
Je pense qu'on a tous, toutes, en l'occurrence, nos raisons personnelles et différentes, parce que on ressent chacune de choses très personnelles par rapport à cette guerre. Pour ma part, je ne suis pas exilée. Je suis arrivée en France il y a 12 ans pour faire mes études. Mais mon identité politique envers la Russie, mon pays d'origine, il s'est développé en France parce que quand je suis venue en France, juste après, il y avait les premières grandes manifestations en Russie en opposition au régime de Poutine. Et c'est en France que j'ai manifesté pour la première fois, en même temps qu'il y avait des manifestations en Russie. Et donc, depuis mon arrivée en France, c'est en continu que je pense à la Russie. Et c'est en continu que j'essaie de faire quelque chose contre ce régime à ma petite échelle. Donc, j'ai milité ici au sein notamment de l'association Russie Liberté qui se pose au régime en Russie et qui essaie de mobiliser les Russes qui sont à l'étranger contre ce régime, également pour soutenir les opposants politiques, pour soutenir les journalistes indépendants. Mais je peux dire que la nouvelle vie pour moi, c'est pas une ville en exil, mais la nouvelle vie a commencé le 24 février avec l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie. Je peux pas me souvenir du jour précis, mais pendant les 6 mois qui suivaient le 24 février, je lisais les actualités en continu et j'ai cessé de passer du temps avec mes amis français, non parce que je les aimais plus, mais parce que les choses qu'on discutait, ça me paraissait complètement vaine. Tout ce qui s'est passé en France, même l'actualité politique en France, qui est toujours très chargée, qui est très importante, mais pour moi, ça ne pouvait pas être de la même densité, de la même lourdeur par rapport à ce qui s'est passé en Ukraine. Et donc.
Et pourquoi l'envie de créer ce collectif artistique alors ?
Et donc ce collectif. C'est à ce moment-là que, par hasard, qu'on s'est rencontré avec Macha, parce que il est arrivé il y a moins de 2 ans, je pense, et avec Alessa qui fait également partie de notre collectif, ainsi qu'avec d'autres personnes. Donc on s'est réunis et on s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et pour moi, personnellement, l'activité militante, l'activité politique, elle est extrêmement importante. Mais quand j'ai rencontré tous ces artistes qui sont venus de Russie, qui se sont exilés, qui ont tout laissé, on ne peut pas comparer, en fait, bien sûr, la gravité de la situation des Russes par rapport à des Ukrainiens qui sont aussi venus en Europe en grand nombre. On ne peut pas comparer la peine. Mais pour ma part, j'ai rencontré ces artistes russes ici à Paris. Et l'art, c'était toujours, pour moi, c'était toujours quelque chose où je trouvais les réponses dans des situations compliquées, difficiles, dans les situations où il fallait faire un choix, où il fallait prendre une décision.
Et justement,
c'est par cette voie-là que moi je voulais essayer d'agir, parce que c'était complètement nouveau pour moi. Et donc, avec Macha et d'autres personnes, on s'est dit que on veut réunir les artistes en soutien à l'Ukraine. Les artistes ukrainiens qui sont déracinés, qui ne peuvent plus créer, pour que le public français les voit, pour qu'ils entendent leur message, pour qu'ils soient affectés de la même manière que nous, on avait été affectés par ces œuvres, par ces créations. Et en fait, pour un peu ajouter de l'humanité, pour ajouter de l'humanité, de la force, de la sincérité, de la lumière, de l'espoir à cette situation. Et pourquoi il y a aussi les artistes russes qui participent à cet événement. Pour nous, c'était également très important parce que ces artistes-là, leur art, leur création depuis le début de la guerre, elle est orientée en soutien à l'Ukraine. Ce qu'ils font, c'est pour soutenir l'Ukraine. Et pour nous, c'était important qu'ils soient également présents et qu'ils disent les choses qu'ils ont à dire en soutien à l'Ukraine. Et peut-être ajouter quelque chose qui, je pense, qui est très important d'articuler ce festival. C'est pas un lieu où les Russes et les Ukrainiens se réunissent pour renouer un dialogue ou pour se réconcilier ou pour se rapprocher. C'est quelque chose qui est inimaginable aujourd'hui pour l'Ukraine, qui est détruite, qui a été détruite par l'armée russe et qui se bat tous les jours contre l'armée russe. Donc c'est pas le moment et c'est impossible d'en parler maintenant, mais c'est pour exprimer la solidarité à l'Ukraine. Que ces artistes y participent. Et tout ce festival, en fait, c'est pour que ici, le public qui voit ça, il continue à soutenir l'Ukraine.
Maria Tchouprinskaya, je crois que vous travaillez dans un théâtre qui s'appelle Théâtre.doc à Moscou avant de partir. Dans les années 2010, quelle forme de liberté vous aviez dans ce théâtre-là? Qu'est-ce que vous jouiez? Comment vous avez vécu votre carrière d'actrice à l'intérieur de ce théâtre?
В 2010 году я никакой актрисой не была. Я занималась.
Non, je n'étais pas actrice.
Я занималась документальным
кино. J'ai tourné des documentaires.
Я делала фильмы
документальные. Mon mari et moi-même, nous avons une société de production et nous tournions des films, des documentaires. À cette époque, c'était des sujets qui n'intéressaient pas du tout les programmes étatiques russes. On ne pouvait pas imaginer un financement russe pour ces sujets. Donc, c'est pour ça qu'on tournait dans des marchés d'art, de cinéma européen. On participait dans les workshops pour chercher des aides pour pouvoir tourner des cinémas. Des documentaires anti-régime. C'était juste un seul festival, Art Book Fest, en Russie, qui retransmettait ces documentaires. Mais par exemple, ces documentaires trouvaient très bien leur place en Europe parce qu'on pour montrer ce qui se passe en Russie. Donc, je ne peux pas dire qu'en 2010, de la liberté d'expression en Russie, ma liberté d'expression, je l'ai trouvée moi-même en Europe en tant que témoin et pour témoigner sur ce qui se passait.
Vous écoutez Tous en scène sur France Culture. Nous sommes avec le collectif artistique Verba, Ekaterina Oleinikova, Maria Tchouprinskaya et Elena Petrovskaya. Nous écoutons un morceau des Ukrainiennes des Dark Daughters. Le morceau s'appelle Inche Misto.
Завтра поїду в інше місто. Там я стану кимось іншим.
Un extrait, c'est le début de la pièce « Les poissons ne pleurent pas » d'Elena Petrovskaya, dans la voix d'Ekaterina.
Elle chante, et moi je ne sais plus. J'étais un être humain dans ma vie intérieure. Je chantais. On me disait « c'est beau ». Dans cette vie-ci, je suis un poisson. Je ne veux plus être humaine. Ça fait trop mal, être humaine. Martha, elle s'appelle Martha. C'est salé. Les poissons ne pleurent pas. Avant, ils pleuraient. Et puis, ils ont pleuré toutes leurs larmes de leur corps et la mer est devenue salée. Les poissons n'ont plus de raison de pleurer. Les hommes, si. Parce qu'il n'y a pas assez de terre. Parce qu'il n'y a pas assez de sel sur la terre. Surtout quand il y a la guerre. Martha. Dès qu'ils ont commencé à bombarder, on a couru chercher du sel au magasin. Sachka a dit « Il faut acheter du sel. » Et Natashka rigolait « 30 sachets de sel. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ?» Natashka était toujours très drôle et suffutée. Une fois, elle a dit « Notre ville ne s'appelle pas comme il faudrait. Il faudrait changer une lettre. » Je me demande laquelle. Elle me dit « Les A ». Pas Mariupol, mais Mariupol. Après tout, on a la mer. Martha, la mer, elle aimait tellement. Elle ne voulait pas partir. Elle pleurait. Elle disait « Je ne peux pas vivre sans la mer. » Et après, quand on était sur la route, il y avait de telles cicatrices, si profondes. Soudain, Natashka crie « Papa, stop !» Ne s'attendant pas, Sashka a appelé brusquement. « J'en ai encore mal. » Avec le petit, on s'est même donné un coup de boule. « J'ai encore une bosse et ça me fait mal. » Natashka descend de la voiture, prend un sachet de sel et en repeint sur les cicatrices. Celle de la terre. Sashka lui court après, lui hurlant dessus. Il la prend à bras les corps et la pousse dans la voiture. Le sachet de sel est resté par terre. Sashka gueule. Natashka pleure. Je sanglote. Seul le petit silencieux. J'allaitais. Il prenait le sein. Ensuite, il est arrêté. Il se tue. Il ne pleure même pas. Il s'est endormi, apparemment. Je touchais sa petite bosse sur le front. Il avait un petit trou dessous, tout petit, et du sang autour. Et lui ne dit rien. Moi, je le berce. Je ne leur dis rien. C'est pas la peine.
Elena Petrovskaya, dans cette pièce « Les poissons ne pleurent pas », il y a donc cette femme qui en a assez d'être humaine et qui parle à un poisson pour oublier et qui devient presque poisson. Et qui est à Mariupol et donc qui petit à petit s'échappe de cette voiture où elle est avec ses enfants et en pensée parle à ce poisson. Qu'est-ce qui a disparu avec la guerre ? Elle parle de l'amour, de une foi en l'être humain qui a disparu. D'où vous est venue l'idée de cette histoire, de cette femme et de ce poisson ?
C'est difficile de répondre à cette question.
Car
nous, les artistes, quand on, dans la création, on ne sait pas d'où ça vient. Mais je pense que le point de départ,
c'était
le fait que je suis maintenant dans un cours d'intégration en Allemagne et j'apprends l'allemand. Et dans ce cours d'intégration, je rencontrais une femme qui a fui Mariupol. Et les premiers jours, j'avais du mal à la regarder. C'était impossible de la regarder. Je détournais mon regard. C'était impossible.
Et je
lui posais une question ou quoi que ce soit, c'était... Et je ne sais pas, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire cette pièce pour me libérer de ce poids. Les poissons ne pleurent pas. Quand j'écris, je sais qu'il y a une partie de moi, en tant qu'autrice, je cherche la forme, je structure ma pensée, mais la pensée, elle me vient d'en haut, comme s'il y avait un canal ouvert, et je le ressens. Je ressens d'abord ce que vient de moi dans ce que j'écris et ce qui vient de là-haut. Et par exemple, dans la pièce, quand elle a été jouée au festival, à la fin de cette pièce, tout à coup, une grande pluie a éclaté et on l'entendait, cette pluie à travers le toit. Et c'était comme des larmes. C'était les cieux qui pleuraient avec les victimes de ce drame. Dans cet hangar, il y avait des trous réels et il y avait des gouttes qui tombaient jusqu'à la Seine. Et il retentissait très, très fortement quand il tombait, quand il cognait quelque chose de comme métal des seaux. Et ces gouttes retentissaient comme des explosions. Et les spectateurs ont perçu ça comme peut-être une trouvaille du metteur en scène. Mais le metteur en scène, c'était celui qui est là-haut, qui a fait éclater cet orage et qui a participé dans la mise en scène. Et c'était un message très fort. Il a dit, on vous entend, on vous entend. Et vous devez passer partout par cette situation de catharsis de la vie. Je ne sais pas pourquoi l'humanité doit passer par ça. Par les guerres. Pourquoi? Parce que j'ai dit une fois, chaque génération a sa guerre. Cette génération peut être pour voir comment la guerre arrache tous les masques, comment la mise à nu se passe et comme l'être humain, soit il reste l'être humain, soit il devient une créature monstre, un monstre dont inhumaine. Et je suis très reconnaissante à mon co-auteur, co-réalisateur qui était là-haut.
Dans le festival, il y avait plusieurs pièces, dont la vôtre, Elena Petrovskaya. Et chaque pièce était très imprégnée, évidemment, de l'actualité, de la guerre. Certaines s'appuient sur des échanges télégrammes, des échanges entre une mère qui est restée à Kiev, une fille qui est en Europe, une femme russe qui a un petit ami qui est soldat ukrainien. Est-ce que c'est possible en ce moment d'écrire autre chose que une pièce qui est complètement imprégnée de la réalité?
Je pense que нужно. Нужно писать,
Je
нужно
pense qu'il faut offrir à l'homme l'espoir. L'amour ne dépend pas de la guerre. Nous le savons. En Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, nous avons vu que l'amour, il a survécu et c'est l'amour qui sauve l'humanité. Quand j'ai tourné mes films et documentaires sur la guerre, sur le terrain, en Ukraine, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me parlaient d'amour. Et c'est ça qui, je pense, une différence. Il y a une différence très grande entre la nation ukrainienne et les Russes. C'est que les Ukrainiens savent, avec tous les péripéties de la vie, avec toutes les épreuves, nous pouvons surmonter tout ça. Et par exemple, il y a une histoire d'une femme de Mariupol, d'une autre femme de Mariupol qui vit maintenant à Chicago. Ça m'a vraiment bouleversée. Elle a traversé, elle a quitté la Russie, elle est passée par Rostov, elle a dû traverser toute la Russie. Après par la Pologne et se trouve maintenant aux États-Unis. Et je lui demande, Tania, est-ce que maintenant tu fais la différence entre les gens, entre les Juifs, les Ukrainiens, les Russes? Elle m'a dit non. Dans chaque nation, il y a des êtres humains et dont l'intégrité et l'honnêteté sont le signe, et les inhumains, les barbares. Chaque nation a son lot. Et elle, qui était à Mariupol, elle a accouché sous les bombes à Mariupol, deux jours avant, et quand sa fille, qu'elle a appelée Angelina, comme les anges, elle avait juste 7 jours, sa fille. Ils ont quitté Mariupol, maman et sa fille, sous les bombes. Elle a vécu une peur horrible qui l'a poursuivie après, des mois après. Elle a quitté l'enfer avec sa fille. Et vous imaginez, elle qui a quitté l'enfer, son âme, elle ne s'est pas abîmée. Dans son âme, tout ce qui reste, c'est l'amour. Et je pense que c'est l'amour qui va nous sauver, et pas l'agression, et pas le mal. C'est seulement l'amour qui va nous sauver. Donc il faut écrire d'autre chose que de la réalité.
Et je pense à un homme qui était présent au festival, Ilor Matyushin, et son nom de scène c'est Ilor Tour, qui a écrit une pièce qui s'appelle « Les tickets sont valables » et qui lui était administrateur principal du théâtre de Mariupol, qui était le 16 mars 2022 là, réfugié avec sa famille pendant le bombardement, qui est un des survivants et qui a réussi à partir, qui est maintenant en France. Il a écrit cette pièce, « Les tickets sont valables », qui décrit ce qui s'est passé cette nuit du 16 mars. Et je crois que pour lui, c'est important que la pièce soit en, en ukrainien. Est-ce que les deux langues étaient présentes au festival et est-ce que c'est important pour vous aussi?
Vous
savez, les langues ukrainiennes et la langue russe, ils se ressemblent, mais sur plusieurs aspects. Mais maintenant, les Ukrainiens, ils ont beaucoup de suspicions quand on parle russe, quand on entend le russe. Pendant la, maintenant, on sait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était le même rapport entre l'ukrainien et l'allemand. Et pour moi, ce qui compte, c'est pas la langue, c'est pas le vecteur, mais celui qui parle. Aujourd'hui, la langue russe, c'est la langue qui apporte à l'Ukraine son lot de mort, de peur, d'horreur, de guerre. En ce sens-là, cette langue, elle est terrible pour moi. Mais, par ailleurs, si je parle avec Masha en russe ou avec Vlad Pletkovitch, le réalisateur de ce doc en scène, moi, je parle librement. Je n'ai aucune suspicion. Donc, la langue, ça n'importe pas. C'est notre combat, notre cause qui importe. Nous avons une cause commune contre l'État terroriste. Moi, je suis bilingue. Je parle et l'ukrainien et le russe. L'ukrainien, c'est la langue de mon pays natal. Mais les hommes, ils n'ont pas besoin de langue pour parler. Et les hommes peuvent parler avec leurs yeux. Et dans les yeux, je peux lire. Est-ce qu'on m'aime ou est-ce qu'on m'haït? Donc, la langue, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est juste un vecteur.
Et
Leonid Kisilov, je voudrais citer un poète ukrainien. Il est mort très jeune, à 23 ans. Mais en tant que poète, il était vraiment d'une grande maturité. Un des derniers vers, il écrivait d'abord en russe, mais ensuite en ukrainien. Et un des derniers poèmes qu'il a écrit, je vais rester au bord de l'abîme et je vais réaliser que tout le monde peut se résumer à une chose, à une chanson en langue ukrainienne.
Ekaterina Olenikova, est-ce que vous pouvez nous lire un autre petit extrait de la pièce d'Elena Petrovskaya? Ça, c'est un peu à l'intérieur de la pièce.
Attention, attention. Vous vous trouvez dans une ville unique, Mariupol. Il y a la mer dans cette ville. Elle est là-bas. Il n'y a rien d'autre. Rien. Quoique, regardez à gauche. Vous avez ici des vestiges de la forteresse de Kalmius. Elle entoure le marché. Les paysans y vendent du miel, du lait. Et ce truc rouge, ça se goûte. Et c'est rouge aussi. On peut le griller. Ça sent très bon après. Et sinon, ce n'est pas bon. La forteresse de Kalmius a été détruite la veille de l'arrivée du grand-duc Constantin à Mariupol. Ils aimaient bien tout détruire avant de venir. Mais ce n'est rien, c'est normal. Par contre, à Mariupol, on aimait bien construire. Vous imaginez, nous, on a construit ici. 11 usines et manufactures, une de pâtes. Deux de tabac, deux de chaux, quatre briqueries et aussi des tuileries. Voilà. Il y avait aussi quatre écoles à Mariupol. Une de théologie est une école paroissiale pour les garçons. Un pensionnat est une école privée pour les jeunes filles. Voilà. Regardez à droite. C'est beau, pas vrai? Et le plus drôle, contrairement à la tradition éternelle de porter atteinte aux droits des femmes, à Mariupol, on portait atteinte aux droits des hommes. Vous imaginez? L'école paroissiale n'acceptait que les garçons, des familles riches. Alors que dans le pensionnat pour filles, on acceptait toutes celles qui s'y présentaient.
Maria Tchouprinskaya, est-ce que ça vous a donné de la force d'entendre toutes ces pièces et ces écritures de ces auteurs, autrices, ukrainiens ou russes qui écrivent aujourd'hui et qu'on a entendu pendant ce festival?
Les pièces
qui ont été présentées à ce festival, tous les auteurs que nous avons invités et qui ont assisté à ce festival, on peut dire quelque chose de solennel, ce sont mes amis. Et donc, je pense que Elena, est-ce que tu me considères comme amie?
Oui, bien sûr. Elena a ouvert les grands les bras.
C'est donc c'est les auteurs qui sont venus, qui ont apporté leurs pièces. C'était des personnalités aussi qui pouvaient raconter leur histoire dans ce lieu, et je suis heureuse qu'on a pu lancer cet mouvement d'idées. On peut dire que c'est un début. Ces pièces ont commencé à se produire et nous allons maintenant faire tout notre possible pour qu'on puisse entendre beaucoup plus fort ces pièces, pour qu'on puisse les voir et pour que les spectateurs puissent les voir. On va essayer de les faire dans toutes les langues possibles pour parler, pour que les gens puissent se rendre compte qu'est-ce que c'est que la guerre en général, qu'est-ce que c'est que la troisième guerre mondiale actuelle. Et parce que aujourd'hui, on perçoit l'histoire différemment. La grande histoire, c'est une chose, et l'histoire à travers les histoires, les témoignages personnels, c'est autre chose. Parce que ces petites histoires, ils fixent la guerre d'une telle sorte qu'on ne veut plus vivre encore une seconde de plus. On veut que la guerre s'arrête tout de suite. Et alors que les hommes politiques, ils sont tellement loin. Et ils peuvent continuer dans leur parloir, dans leur débat. Ils parlent des boxes dans lesquelles on peut mettre les gens, les juifs, les ukrainiens, les russes, et continuer de gérer le monde. Et je pense que l'art a toujours été un espace de résistance à la non-liberté, au pouvoir. Donc l'art, c'est un lieu pour témoigner sur l'homme, sur le choix de l'homme. C'est comme la Bible. La Bible nous laisse des choix et ensuite on fait ses choix, comme Elena a dit. Les auteurs au XXIe siècle, je pense qu'actuellement, ils fixent ces petites histoires liées à la guerre. J'espère que c'est la dernière guerre que l'humanité vit, mais maintenant ces petites histoires doivent être des témoignages tellement forts qu'on puisse au plus vite possible d'arriver à nos conclusions. Moi, en tant qu'organisatrice, je ne suis pas, encore une fois, je suis en dehors de la politique, je ne vais pas parler sur les plateaux télévisés, je suis responsable de la parole, de témoignages qui se produit à travers ces auteurs, à travers ce lieu d'échange. Ce qui importe pour notre collectif d'artistes, c'est de soutenir l'Ukraine pour qu'elle puisse survivre dans cette guerre existentielle contre elle. Parce que si l'Ukraine n'arrive pas à survivre, c'est la fin de l'humanité. Je voudrais que tout le monde en soit conscient. La pièce d'Elena, elle est tellement importante. Nous réfléchissons comment maintenant la traduire en italien et en français pour qu'il y ait plus d'Ukrainiens et de Russes, pour s'en détacher et pour que cette pièce puisse vraiment véhiculer ce message très très important. Et moi aussi j'étais très sensible à votre question concernant la langue. C'est pour moi très important. Si moi je pouvais parler maintenant avec avec les Ukrainiens en ukrainien, j'aimerais le faire. J'apprends l'ukrainien grâce à Duolingo, mais ma langue natale, ma langue, c'est la langue russe. Et mon père et ma mère me parlaient cette russe. Et donc, j'espère personnellement que les Ukrainiens puissent avoir moins de trauma par rapport à la langue russe. Et nous cherchons comment maintenant atténuer, mitiger toutes ces conséquences que la langue russe peut infliger à l'oreille ukrainienne et aux Ukrainiens en général. Et comment on peut mitiger nos accents, le A de Moscou comment on s'exprime en russe, parce que c'est tellement facile de radicaliser les questions linguistiques, et cette question après elle est instrumentalisée par des mauvais gars, par les hommes du politique qui viennent saisir et qui montent ensuite des paysages très éclatés politiquement. Et j'espère que les Ukrainiens, ceux qui peuvent nous entendre, peuvent nous pardonner le fait qu'on est né porteur de la langue russe et on vient d'où on vient, de la Russie, mais qu'on puisse nous pardonner ça, parce que c'est vrai que ce sont des catalyseurs qui heurtent les consciences. Et, mais quand on parle de l'essence, si on peut se distancier des questions linguistiques et si on peut parler, si on peut écouter juste le message en dehors du vecteur, en dehors de la langue, et mon expérience de l'actrice de Moscou qui travaillait dans un théâtre indépendant, à l'époque, on pouvait parler encore librement. Avant, on faisait des pièces et on parlait de Oleg Sentsov quand il était en détention. On parlait de l'Ukraine. Maintenant, c'est plus possible. Les pièces qui ont été produites dans le cadre de ce festival, et ce sont le but, notre message, c'est de trouver maintenant le cercle le plus large pour que ces pièces puissent rayonner, pour que ce message puisse être diffusé. Je ne peux pas me sentir heureuse de ce qu'on a produit. Je sens encore plus responsable. Je sens que je dois en faire encore plus pour me battre, pour casser les murs. Ces murs devant nous, ça veut dire qu'il faut avancer. Et d'où prendre ces forces dont vous parlez? Comment, quand je dis les forces, comment nous guérir? Et quand je parle de la santé, je parle de la santé mentale, bien entendu, pas de la santé physique. Comment se prémunir du désespoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont sombré dans le désespoir, dans la dépression, mais il faut se ressaisir, parce que la guerre, ce n'est pas un temps pour la dépression, c'est le temps d'agir, et c'est ce qu'il faut faire. Et j'espère que notre message sera entendu.
Merci beaucoup à toutes les trois. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation, à la technique ce soir, merci à Cédric Chatelus et merci à Natalka Boyko-Jakoura pour la traduction. Пшаница.